toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles. Bienvenue dans Histoire de savoir. On va parler aujourd'hui d'une affaire dont on avait déjà parlé, mais c'était il y a 4 ans il me semble, c'était l'affaire Jeanne Van Kalk, le crime de la rue des Hirondelles. C'est avec vous Laura Disporio, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes donc docteur en histoire, autrice et réalisatrice entre autres ici d'un podcast, puisque cette histoire, vous en avez fait un podcast.
Tout à fait.
Et donc au départ, c'est une recherche en fait. Comment est-ce qu'on passe d'une recherche à un podcast ?
Alors au départ, c'est une recherche postdoctorale qui m'avait permis d'aller travailler au Canada, à l'université d'Ottawa et à l'université d'Oxford. Je suis aussi allée à Rome pour travailler sur les crimes sexuels contre les petites filles dans l'Europe de la Belle Époque. Et finalement, en partant en fait de Jeanne Van Kalk, c'est vraiment Jeanne Van Kalk, l'affaire de la rue des Hirondelles, qui m'a donné envie de créer donc ce gros projet postdoctoral sur les violences sexuelles sur les petites filles à la Belle Époque. Et puis finalement, j'ai beaucoup travaillé dessus pendant un an et demi. Vraiment, c'était vraiment une recherche scientifique. Et donc il fallait que je trouve un angle par lequel prendre ces histoires. Il y avait vraiment cette volonté de ne surtout pas aller vers le gore, de vraiment de rester, en fait, de montrer ce que les crimes permet à l'historienne. Donc en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est quand on travaille sur les crimes, on a accès à la vie quotidienne des gens. Parce que dans les journaux, ils racontent vraiment que faisaient les personnes avant, après, pendant. Enfin voilà, il y a tout vraiment quelque chose qui permet de saisir la vie quotidienne. Et moi, c'était ça qui m'intéressait. Comment en fait, à partir de ces crimes, je peux avoir accès à la vie quotidienne des enfants, à une... dans une certaine période de l'histoire.
Cette période de l'histoire, vous le disiez, c'est la Belle Époque. Ici, la Belle Époque, ça recouvre quelle période ?
Ça dépend des pays. Allez, en Belgique, c'est 1880 jusqu'à 1914, jusqu'à la Première Guerre mondiale, pardon.
Et donc ici, on est clairement l'affaire de Jeanne Van Kalk, clairement dans cette époque-là, puisque là, on parle d'un crime qui est commis en 1906.
Oui. Le 7 février 1906.
Et donc, on peut la replacer un peu, cette histoire, peut-être sans divulguer tout sur le podcast, bien entendu, puisqu'on en parlera juste après. Mais donc, c'est un podcast. Mais quelle est l'histoire ? Quelle est l'affaire, en fait, Jeanne Van Kalk ?
L'affaire Jeanne Van Kalk, c'est l'histoire d'une petite fille de 8 ans qui va rendre visite à sa mère un mercredi soir, après le souper. Et qui ne rentre pas, qui ne revient, qui n'arrive pas chez sa mère, qui ne revient pas chez ses grands-parents et qui a disparu et dont le corps va être retrouvé à minuit et demi dans la rue des Hirondelles par un machiniste qui travaillait au théâtre L'Alhambra. Et on va retrouver donc son corps sans jambes, son cadavre avec les jambes coupées. Dans la rue des Hirondelles, enveloppée dans un paquet. Et l'autopsie révélera qu'elle a été violée, donc c'est un crime sexuel. Et l'assassin n'a jamais été retrouvé. Et donc du coup, dans les rues de Bruxelles, ça a fait vraiment, ça a été un drame. L'émotion a été extrêmement vive. D'abord par l'horreur du crime, le fait de retrouver ce corps dans la rue, dans l'espace public, et aussi du fait que l'assassin n'a jamais été retrouvé, donc du coup le besoin de justice n'a jamais été satisfait.
On est vraiment au centre de Bruxelles, parce que vous dites donc le théâtre de l'Alhambra, la rue des Hirondelles. La rue des Hirondelles existe encore, mais la maison là, on a retrouvé, n'existe plus. Même la rue, en fait.
Rue continue.
Oui, oui.
La rue existe.
Il y a plein de travaux,
mais
là,
tout a été rasé.
Ouais,
il ne reste plus rien de la rue des Hirondelles. Et déjà dans les années 50-60, déjà le 22 rue des Hirondelles, donc la maison devant laquelle on a posé L'assassin a posé le paquet contenant le corps de Jeanne, avait déjà été démoli dès les années 50. Et puis là, il y a quelques années, je me souviens en 2020, il restait juste des parkings. Mm-hmm. C'était vraiment des garages, en fait. La rue des Hirondelles, c'était une rue qui était... Mais elle continue d'exister, il y a des restos. Mais du côté, pardon, je vais, quand on est rue de la Cône, du côté... Le côté gauche est toujours là, le côté droit est complètement démoli. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire à la place.
Ouais, c'est la première sur ce grand chantier.
Voilà. Donc... Et le théâtre La Lambra n'existe plus non plus. Il a été rasé alors que c'était un magnifique immeuble. Mais il reste de ce théâtre le parking La Lambra.
Bah oui, c'est ça, voilà. Le parking La Lambra.
Et le quartier qui maintenant est dénommé le quartier La Lambra.
Mm-hmm. C'était dû au théâtre, en fait.
C'était dû au théâtre, oui.
Et donc toute l'histoire se passe entre cette fameuse rue des Hirondelles, donc quasi place de Brouckère, jusqu'à la chaussée d'Anvers. C'est vraiment, c'est un périmètre assez... Enfin, c'est pas un périmètre. Si, c'est un périmètre, mais aussi une surface assez restreinte, finalement.
Complètement, c'est juste un quartier. C'est un quartier qui va être pris des mois, mais il faut le savoir aussi, c'est partout en Belgique. Tout le monde va vouloir découvrir qui est l'assassin de Jeanne, qui a tué Jeanne Eucque. D'où
le nom du podcast,
parce que c'est vraiment la question qui est sur toutes les lèvres en 1906. Et c'est une affaire qui va vraiment hanter Bruxelles. Et c'est ce que je raconte dans le podcast.
Alors un podcast en 10 épisodes, c'est pas rien. Il fallait 10 épisodes pour parler de cette affaire.
Il en aurait fallu 20.
10 épisodes de 30 minutes à peu près.
Ouais,
hein,
Entre 20 et 30 minutes. Ça dépend de... il en fallait au moins 20 parce que... En fait, c'était impossible pour moi. Au départ, c'était vraiment « Qui a tué Jeanne Eucque ?» C'était un article scientifique. Vraiment, un article en 9000 mots. Donc j'ai essayé de raconter... l'émoi, donc vraiment l'émotion suscitée par la mort de Jeanne, c'était ça qui m'intéressait. C'était vraiment d'aller vers l'histoire des émotions et de raconter qu'est-ce que ça fait à une société, le crime violent et sexuel d'une enfant en 1906. Et c'était impossible. Et donc, du coup, j'avais des retours. J'ai eu de la chance parce que j'ai essayé d'écrire cet article alors que j'étais à l'université d'Oxford avec vraiment des spécialistes de l'histoire de l'enfance, de la jeunesse. Donc, j'avais vraiment un regard qui, comment dire, des personnes qui m'ont vraiment beaucoup aidée, qui m'ont posé beaucoup de questions et qui ont vraiment permis, en fait, à ce podcast, je pense, d'avoir cette armature scientifique qui était nécessaire. Quand on parle d'une affaire comme celle-là, ben on peut vite tomber, en fait, dans le voyeurisme ou dans le glauque, etc. Et moi, c'était vraiment quelque chose que je voulais éviter. Je voulais à tout prix ne pas donner de détails sur le meurtre de Jeanne. Et en fait, pour moi, je n'arrivais pas à... je voulais pas contenir, en fait. Je voulais pas contenir toute cette émotion. Je voulais pas contenir l'émotion des gens qui traversaient toute cette histoire. Il y avait tous ces personnages, il y avait énormément de personnages, énormément de personnes, en fait, qui ont eu... comment dire, qui ont participé à cette émotion collective. Et moi, j'avais envie de leur donner la parole. Mm-hmm. J'avais envie qu'on les entende. J'avais envie qu'ils vivent, qu'ils revivent, parce qu'en fait, ils vivaient complètement dans ma tête, grâce notamment à... j'ai épluché, mais vraiment des années et des années de journaux.
La presse actuelle, la presse de l'époque.
La presse de l'époque, grâce à Belgica Presse, parce qu'il faut savoir aussi que j'ai dû travailler sur l'affaire de la rue des Hirondelles pendant le Covid.
Oui.
Donc du coup, j'avais du temps et j'ai passé beaucoup de temps sur Belgica Presse à chercher Jeanne Eucque. J'avais une base, j'avais donc ce gros livre de Louis Franck, mais c'est sa vision, le livre de Louis Franck qui s'appelle... Le crime de la rue des Hirondelles, l'affaire Jeanne Van Kalk à Bruxelles en 1906.
Bah Louis Franck qui était quand même un avocat, qui a été l'avocat de Marie Poplin, féministe.
Un féministe, un personnage assez haut en couleur. tout aussi vraiment assez fou et qui raconte en fait son enquête sur l'affaire de la rue des Hirondelles. Mais son enquête, elle est très subjective parce que lui, son but, c'est vraiment de dire « moi, je l'ai résolu ».
Ok. Mais il a écrit plein de bouquins, cet homme-là, en plus.
Oui, il a écrit... l'enseignement ménager.
Oui, voilà, il aime bien...
Il a beaucoup...
Il aime bien dire des choses sur les choses.
Voilà, c'est ça. Comme ça. Et il était...
Donner son avis.
Disons qu'il était un peu mégalo et qu'on peut le remarquer. On pourrait faire... Moi, j'adorerais pouvoir un jour faire un podcast sur juste le livre de Louis Franck. Parce que ça part dans tous les sens. Donc, en fait, il parvient à résoudre, selon lui, hein, bien sûr, l'affaire de la rue des Hirondelles grâce au calcul des probabilités et toutes sortes d'équations mathématiques absolument... il faut lire le bouquin. Bon, j'ai commencé à lire le livre, j'y ai passé la nuit.
Okay.
Donc voilà, c'est vraiment fascinant, passionnant. Et moi, je me suis vraiment passionnée pour ce livre, mais j'avais pas envie de raconter l'affaire de la rue des Hirondelles à partir de Louis Franck, parce que beaucoup de journalistes en fait l'ont raconté à partir de ce livre,
okay,
qui regorge. Non pas d'erreur, mais en tout cas de...
subjectivité, en fait.
D'une subjectivité. Surtout, en fait, l'homme, cet homme-là, veut absolument démontrer par A plus B qu'il a résolu l'affaire. Moi, je ne voulais pas. Mm-hmm. Et moi, c'était vraiment ma première envie, c'était de ne surtout pas partir dans cette idée de résoudre le crime.
D'ailleurs, elle n'est pas résolue. Hein,
mais... Elle n'est pas résolue, elle ne le sera jamais. Et en tout cas, ce n'est pas mon rôle en tant qu'historienne.
Alors, vous parlez des émotions. D'ailleurs, vous parlez dans le podcast de communauté émotionnelle, qui est un terme, en fait, qui est issu de la sociologie.
C'est pas issu de la sociologie. C'est vraiment les historiens qui...
Okay.
Les historiennes qui... et c'est une historienne de l'époque médiévale qui a inventé, oui, enfin, j'arrive pas à trouver.
Qui a raconté
les émotions des gens de l'époque médiévale à partir de cette notion de communauté émotionnelle. Donc c'est vraiment cette idée de personnes qui se réunissent autour d'une même émotion. Et ici, c'est la colère. Et la tristesse, il y a énormément de tristesse en fait, parce que les gens de Bruxelles ont réalisé que Jeanne, ça pouvait être leur fille, leur sœur, leur cousine, leur voisine. Ça pouvait être toutes les filles en fait, toutes ces petites filles des classes populaires pouvaient être Jeanne. Et d'ailleurs, je le montre en fait à quel point la violence sexuelle est hyper présente dans la vie des petites filles en 1906, dans la vie... Voilà, dans la ville, à quel point elles sont vulnérables, et ça je le montre, et à quel point aussi elles arrivent à se défendre, c'est ça aussi qui est intéressant de montrer. Et donc du coup, il y a vraiment... Bruxelles va se réunir autour de la mort de Jeanne, et autour de l'envie de voir le coupable jugé et emprisonné. Et forcément, quand on se réunit autour d'une émotion, ben ceux qui ne répondent pas, qui n'ont pas la même, qui ne réagissent pas de la même manière, ben deviennent des coupables et sont exclus de la communauté émotionnelle. Et c'est vraiment ça, c'est cette idée de, on se réunit autour d'une émotion et on regarde, on commence à regarder les autres et on commence à les juger et on les exclut quand ils ne répondent pas à l'émotion qu'on voudrait voir apparaître chez eux.
Thank you.
alors justement avec cette communauté émotionnelle et dans cette histoire également, on ne peut pas s'empêcher de trouver une certaine résonance avec, avec l'affaire de Julie et Mélissa par exemple. Et c'est très étonnant parce qu'il y a ce côté aussi l'enterrement de Jeanne Van Kalk qui ressemble fortement à une marche blanche. Il y a vraiment une résonance et exactement. C'est comme si en fait... Déjà avec Marc Dutroux et l'affaire de ses petites filles, on a l'impression qu'on découvre qu'il y a des prédateurs dans la rue. Bon, ça ne court pas les rues, hein, cela dit, mais voilà. Et on fait attention du coup aux enfants. Aujourd'hui, en 2026, alors que ça s'est passé en 1996, on a toujours cette image de cette histoire. Pourtant, ça s'est déjà passé. Bah, tiens, en plus, en 1906, décidément, ça fait plein de 6. Ça s'est déjà passé en 1906.
Oui. Et moi, en fait, c'est en racontant l'affaire de la rue des Hirondelles, j'ai vraiment voulu aussi me remettre, repenser à moi, pré-ado, au moment où Julie et Mélissa disparaissaient, au moment où on a découvert l'ignoble du trou. Moi, j'habitais, je suis passée devant sa maison pendant des années. Et puis tout à coup, on réalise en fait qu'il y avait Julie et Mélissa qui étaient derrière cette maison. Donc du coup, c'était très proche de moi, tant géographiquement. Et aussi, ben, tout à coup, j'ai 11 ans, 12 ans, et je réalise en fait que le vilain monsieur dont on me parle, il existe vraiment. Mm-hmm. Il a un visage, qu'il est réel. Et donc du coup... ma manière de raconter l'affaire de la rue des Hirondelles, elle est aussi marquée par, par mon passé de petite fille qui se réveille un matin en découvrant que des petites filles ont vécu pendant 3 mois dans une cave à 2 pas de chez moi. Donc du coup, il y a vraiment cette... comment dire, l'affaire Julie et Mélissa, elle est là. Elle est tapie derrière. Je ne voulais pas en parler... Comment dire, je ne voulais pas en fait... Je voulais vraiment là être uniquement... sur Jeanne Van Kalk, mais montrer en fait à quel point c'est on a tort de penser que notre époque a découvert les violences sexuelles sur les enfants. C'est quelque chose qui c'est une histoire longue, c'est une histoire enfin bien souvent c'est ça que j'essaie de dire, c'est nous en tant qu'historienne on le sait.
Ah oui.
Que ça se passait déjà. Mais à chaque fois, et c'est ça qui est dommage, c'est à chaque fois la société, à chaque fois les médias font comme si on le redécouvrait, on le découvrait, comme si en fait notre époque le découvrait. Et moi, c'était quelque chose que j'avais envie de montrer en fait, que déjà à l'époque, ça suscitait énormément d'émotions, que ça n'a jamais été normal en fait, les violences sexuelles. Et que ça a toujours été une souffrance, que ça a toujours été dit, que ça a toujours été dénoncé. Et je trouve ça en fait, je trouve ça presque... J'ai envie de dire, parfois je regarde ça avec un regard un peu cynique et de dire, mais les gars, ça fait des années qu'on les dénonce, que les femmes les dénoncent. Et ça fait des années qu'on fait comme si on le découvrait à chaque fois. Par exemple, moi, j'étais en train d'écrire, de terminer mon scénario sur qui a tué Jeanneke quand l'affaire Pellicot, en pleine affaire Pellicot. Et dans mes sources, donc en 1906, un journaliste, un journaliste critiquait déjà le huis clos.
Ok, oui.
En disant, on veut savoir en fait. La société a le droit de savoir ce qui se dit.
Au niveau du tribunal, alors.
Ce qui se dit, comment la justice traite ses affaires. En 1906, il y avait déjà ce débat sur le huis clos. Donc du coup, c'est pour dire à quel point en fait les choses ne font que se répéter. Il ne faut pas relativiser parce qu'il y a des choses qui changent, etc. Mmh. Mais en tout cas, moi, j'ai eu énormément de chance avec qui a tué Jeanneke parce que j'ai eu MeToo. Il y a eu l'affaire Pellicot. Il y a eu maintenant l'affaire Epstein, etc. Donc il y a plein de choses comme ça qui m'ont permis vraiment de regarder ça à chaque fois avec des yeux nouveaux, avec des notions nouvelles et d'être complètement... d'avoir une vision à 360 et de ne rien oublier en fait. Et c'est vraiment cette histoire, ce podcast le raconte vraiment non seulement avec le regard de la préado que j'étais qui a vécu vraiment un avant et un après l'affaire du trou où vraiment j'ai vu ma liberté qui se réduisait en peau de chagrin après cette affaire. Et puis il y a MeToo Et je pense en fait qu'il y a 10 ans, 15 ans, je n'aurais pas pu raconter cette histoire de la même manière. J'ai vraiment, je pense que c'est vraiment une chance pour l'historienne que je suis d'avoir eu toutes ces affaires qui m'ont permis de raconter le plus justement possible cette affaire.
Cette affaire donc que vous mettez en son donc dans ce podcast Qui a tué Jeanneke, il y a une mise en scène évidemment, il y a une scénarisation de l'histoire et surtout il y a ce côté de dialogue entre vous, l'historienne de Jeanne Van Galck, puisque Jeanne...
C'est comme ça que je me
voilà,
je
mon
me présente.
Historienne. et donc il y a il y a Jeanne Van Galck, on l'entend.
Oui.
C'était un choix, il fallait.
Il fallait, je pouvais pas faire autrement. En fait, au départ, quand j'ai écrit ma note d'intention sur qui a tué Jeanneke, au départ, j'étais là, oui, il faut qu'on entende, il faut qu'on sente sa disparition, qu'elle soit silencieuse, pour qu'on entende, en fait, pour qu'on soit dans le manque de cette petite fille. Et puis, en fait, j'ai commencé à écrire le scénario et Jeanne était là. Elle me raconte, comment dire, c'était comme si elle était là, toujours avec un regard ironique. Il y avait quelque chose comme ça où je me suis dit, ben non, en fait, je dois la raconter avec elle. Je veux, en fait, qu'elle commente, qu'elle se foute de ma gueule.
Elle le fait bien.
Elle le fait très bien. Et c'était aussi... moi, j'ai eu de la chance, c'est que j'ai des petites sœurs qui font, comment dire, ou qui sont beaucoup plus jeunes que moi. Et donc, du coup, ben, moi, j'ai eu de la chance d'avoir, en fait, ces conversations avec des enfants. Et je trouve en fait qu'ils ont toujours une espèce de distance, une espèce d'ironie qu'on perd en étant adulte. Et c'est vraiment nourri de ça et de toutes les descriptions de cette petite Jeanne qu'on décrivait comme une chef de bande. On l'appelait la petite avocate. Elle était pleine de bagout. Et je voulais qu'elle soit avec moi. Et elle est restée avec moi et elle continue d'être avec moi. Parfois, bon, c'est mon petit fantôme. Mmh. C'est vraiment, elle m'a accompagnée durant toute l'écriture. Et elle me permettait, en fait, à chaque fois, de garder de la distance. Pas une distance... parce qu'en fait, j'étais à côté d'elle. Enfin, il y a vraiment ça, en fait. Cette histoire, elle n'est pas racontée d'en haut.
Ouais, ouais.
Elle est racontée avec les gens.
Et du coup, en fait, il y a aussi ce côté de langage actuel, en fait, que Jeanne utilise. Et donc, au départ, on est « what ?» Donc déjà, on entend Jeanne, on peut être dans un premier temps « ah oui, quand même ». Et puis, c'est hyper intéressant de l'entendre, en fait, mais de l'entendre parler comme les enfants d'aujourd'hui, en disant « lol, c'est cool ».
C'est trop stylé, oui, parce que forcément, c'est le fruit de mon imagination. Donc, elle ne pouvait pas parler comme une enfant du début du XXe siècle. Et puis, en plus, elle aurait dû me parler flamand. Et je ne comprends pas trop bien le flamand. Donc, voilà. Non, mais sans rire, c'était une manière de... C'était, je pense qu'il y a quelque chose comme... Jeanne, c'est mon alter ego, c'est une sorte d'alter ego, et c'est dur de raconter l'histoire, c'est dur en fait de faire une recherche sur une enfant morte, des suites de violences sexuelles et de travailler sur un crime, un meurtre, et je pense en fait que de faire revivre Jeanne, de l'entendre me parler, de la laisser en fait me parler et me répondre, ça m'a permis aussi de pas sombrer, tout simplement. Parce que l'air de rien, en tant qu'historienne, on vit. Enfin voilà, moi j'ai travaillé sur un meurtre et je pense que c'était une manière pour moi de garder une espèce de tendresse, d'humour, de douce ironie, en fait, d'avoir cette petite Jeanne qui me parle, comme me parlaient mes petites sœurs, et de m'empêcher d'être trop sérieuse ou de m'empêcher d'être trop dans le pathos.
Ouais, ouais, bien sûr. Alors, en tant qu'auditorice, il y a cette... cette façon, ça, il y a une façon de dédramatiser aussi. On a une impression de dédramatisation tout en gardant le côté dramatique de l'histoire. Mais il y a comme une sorte, en effet, d'enlever un peu le pathos en entendant Jeanne, qui, en effet, se fout de vous à certains moments, donne son avis et dit non, mais ça va pas, ça, tu vois. Enfin, voilà. Il y a un côté de dédramatisation dans la dramatisation de ce du crime.
C'est ça qui est intéressant, et c'est pour ça que l'affaire de la rue des Hirondelles méritait en fait son podcast en 10 épisodes. C'est que on est en Belgique, on est à Bruxelles, et on a cette comment dire, cette capacité à transformer le drame en comédie, en burlesque, quelque chose de burlesque. Et moi, je voulais pas du tout dire c'est pas grave. Je voulais juste rendre hommage en fait à notre capacité à la résilience, mm-hmm. par l'humour, par la colère aussi, parce que c'était ça aussi, c'est la colère, elle est aussi porteuse de vie, et après une mort comme ça, il faut continuer de vivre, et comment continuer de vivre sans colère, sans humour en fait, c'est ça, mm-hmm. c'était ça, c'est vraiment cette volonté là de et j'aime pas parler de deuil parce qu'il y a pas de deuil, il y a pas de deuil possible en fait quand on c'est aussi je me suis aussi beaucoup nourrie de documentaires du type faites entrer l'accusé, il y a rien à faire, et je lui rends hommage aussi. Parce que
version Christophe Ondelat.
Oui, ah oui, oui, toujours Ondelat. Il y a que lui et Frédéric Lantieri, que j'aime bien aussi.
Ouais.
Et parce que je l'aime beaucoup aussi. Et en fait, au départ, par exemple, la mère de Jeanne n'avait pas un grand rôle, et à force en fait de regarder les faits entrer l'accusé et de voir en fait ces mères, souvent des mères, voilà, souvent des femmes. De les voir aux prises avec la justice, une justice qui ne répond pas, qui les laisse dans le déni le plus total, qui les maltraite.
Et, qui les accuse parfois aussi.
Qui les accuse aussi, à tort. Et moi, j'ai vraiment... Ça s'est nourri de ça, en fait, de la combativité de ces femmes. Et j'avais envie qu'elles existent. J'avais envie de leur rendre hommage. J'avais envie de montrer d'essayer de montrer comment on fait pour continuer de vivre, en fait, après un tel drame. Et je veux aussi bien dire que je ne dramatise pas. S'il n'y a pas de ça, c'est juste, en fait, moi, je ne voulais pas être dans le pathos. Mm-hmm. Je ne voulais pas être dans quelque chose de lourd, de noir. Je voulais montrer la vie, en fait. Mm-hmm. Ceux qui restent, celles et ceux qui restent, et comment on continue de vivre, et comment on continue d'enquêter quand la police ne fait pas son travail, ou très mal, quand la justice ne répond pas aux demandes des citoyens et citoyennes, quand la police ne répond pas aux demandes d'une famille. Moi, c'était ça que j'avais envie de montrer.
Alors, est-ce qu'on peut parler d'un podcast True Crime ? C'est beaucoup la mode aujourd'hui. Mmh. Est-ce que vous le considérez comme ça ?
C'est un True Crime qui n'en est pas un. Voilà, mais c'en est un. C'est un détournement du true crime.
Ça pourrait même être... allez, c'est peut-être l'idée peut-être de départ. Enfin, pas l'idée de départ, mais en tout cas, il y a quelque chose là, un terreau peut-être, mais qui se développe autrement.
C'est exactement ça, parce qu'en fait, j'ai repris aussi beaucoup de codes du true crime. Par exemple, ma voix off.
Ouais.
C'est moi qui raconte, comme tous les true crime, c'est toujours une personne qui est chargée d'une mission de vouloir résoudre une affaire qui n'a pas été résolue et qui va enquêter, etc. Sauf que moi, ça s'est passé en 1906, donc en fait je ne peux pas, je ne peux pas interroger les personnes qui vivaient en 1906 et qui pourraient peut-être m'aider à résoudre l'affaire. Non, je ne peux pas, mais je peux aller à leur rencontre,
ouais.
à travers les sources qui me restent. Et donc pour ça, je dois passer par la fiction, je dois imaginer, je dois leur donner des voix, leur donner, oui, je dois leur redonner vie, voix, etc. Et donc, du coup, pour moi, ben, c'était, ça passait aussi par des comédiens et des comédiennes amateurs. J'avais pas envie d'avoir des comédiens qui savent ce qu'ils font. Je voulais pas des personnes qui savent ce qu'ils font, qui savent comment gérer leurs émotions, etc. Donc du coup, j'ai eu envie de travailler avec des comédiens et comédiennes amateurs pour pouvoir avoir cette spontanéité, une espèce de... Souvent dans le true crime, quand on interroge les gens, c'est pas des gens qui ont l'habitude de parler. Et donc du coup, bah, c'était un peu... Donc oui, c'est... pour moi, c'est vraiment un true crime, sauf qu'en fait, jamais... je n'essaie de résoudre le crime, parce que c'est pas ça qui m'intéresse.
C'est pas ça du tout, d'ailleurs, et vous le dites plusieurs fois.
Oui.
Je crois que les choses les plus souvent dites, c'est « je ne veux pas savoir, je ne veux pas résoudre l'affaire » et « je ne sais pas ».
Voilà. Et c'est ça, et c'est aussi, c'est ce qui est beau aussi dans le métier d'historien et d'historienne. C'est qu'en fait, on n'a jamais accès à la vérité. Et voilà, par exemple, dans les tribunaux, on n'a pas accès à la vérité, on a accès à la vérité judiciaire. Ouais. Ici, ben, c'est la vérité historique. C'est une vérité qui n'en est pas vraiment une, c'est une vérité où il y a plein de silences, il y a plein de questions. Et moi, c'est ce qui m'intéresse dans le travail d'enquête historique. C'est une enquête historique. Et c'est ça qui m'intéressait, c'est le silence. Et qu'est-ce que je fais de ce silence, en fait ? Ben, en fait, je suis humaine, et donc j'imagine. Et parfois, en fait, je pense que ces imaginations, on a accès à une certaine vérité. En tout cas, c'est la mienne. C'est la mienne qui se base sur des documents, des sources, qui se base sur des synthèses que j'ai pu faire sur l'histoire des femmes, l'histoire de Bruxelles, etc. Et j'essaie de l'expliquer et je pense que ça donne un drôle de mélange, mais qui reste un petit true crime.
Bien sûr. Alors moi, je croyais que ça allait être frustrant parce qu'on n'allait pas savoir qui avait tué Janek. Et en fait, c'est pas frustrant.
Ouais, je suis contente.
Moi, je trouvais pas ça frustrant. Et par contre, il y a un énorme travail de remise en contexte aussi. En fait, à certains moments, on a l'impression de savoir ce qui s'est passé, de savoir comment Bruxelles vivait en 1906. Il y a un côté de remise en contexte, que ce soit géographique, que ce soit historique, qui est énorme, en fait.
Qui est énorme, qui m'a demandé beaucoup de travail, qui a demandé aussi beaucoup de travail à ma monteuse et aussi beaucoup de recherches parce que je ne pouvais pas par exemple enregistrer dans la rue aujourd'hui.
Bah non, ça ne marche pas.
Ça ne marche pas du tout. Donc du coup, on a dû reconstituer certains bruits. Heureusement, il y a des sonothèques qui sont merveilleuses aujourd'hui où on peut retrouver toutes sortes de bruits. Et par exemple, on a dû reconstituer un bureau de presse.
Oui.
Avec les bruits de l'impression, etc. Donc du coup, ben ça, j'ai aussi beaucoup regardé de films d'époque pour pouvoir écouter comment au cinéma on reconstitue une ville à la belle époque. Donc j'ai regardé beaucoup de films. J'ai regardé aussi beaucoup les films qui se trouvent sur que la Cinémathèque a mis sur YouTube, qui permet en fait de voir, d'imaginer. Moi, j'ai vraiment imaginé comment ça sonnait. Et aussi, on est à Bruxelles. À Bruxelles, on parle flamand.
On parlait beaucoup flamand, en fait, à
l'époque. Le français. Et donc, du coup, je voulais aussi, malgré le fait que moi, je parle le français, je baragouine un peu de flamand, je voulais aussi qu'on entende, que ce soit bilingue. Parce que Bruxelles est bilingue et que je trouve que c'est l'un des traits dominants de la ville, c'est quand on prend le tram, on entend à la fois en français et à la porte, Port de Halle. Moi, je voulais aussi que mon podcast soit bilingue. Donc du coup, forcément, on entend plus le français parce que c'est ma langue et que j'aurais eu plus de difficultés à écrire en néerlandais. Mais en tout cas, il y a vraiment cette volonté d'être au plus près de qu'est-ce que ça pouvait être une ville avec ses vendeurs et ses vendeuses de journaux, avec ses chanteurs et ses chanteuses de rue, ses brouettes qui passent, les sabots,
Oui, et le tram qui n'a pas le même bruit que le tram aujourd'hui.
Le tram qui n'a pas du tout le même bruit. Les premières automobiles, il y avait beaucoup de chiens, il y avait des chevaux. Et donc, du coup, voilà, c'était... Et beaucoup d'enfants aussi dans les rues, ce qui n'est plus vraiment le cas aujourd'hui. Donc, c'est énormément de travail, mais c'est aussi beaucoup de plaisir à reconstituer. Et on a... J'ai vraiment eu de la chance parce que ma monteuse, Diana Dolce, c'est vraiment... C'est vraiment prise au jeu et on a vraiment beaucoup travaillé là-dessus et c'est, ça nous tenait à cœur que ce soit le plus juste possible.
En tout cas, ça rend bien.
Merci.
Et on a l'impression d'y être et d'avoir cette sensation, en fait, du coup, de retourner dans ce Bruxelles de début du siècle, parce que tout se passe donc dans ce petit périmètre, mais pas que, puisque, par exemple, les jambes de Jeanne Van Kalk vont être trouvées à Laeken, pas loin du palais, d'ailleurs, dans les jardins de la ferme du Stevenberg. Et c'est marrant, parce que ce sont toutes des noms qu'on connaît, en fait, et qu'on se dit, oui, je connais, mais après on ne connaît pas super bien. Et donc il y a plein d'histoires qui s'entremêlent. Finalement, l'histoire de Jeanne Van Kalk, c'est plein d'histoires qui s'entremêlent justement. C'est aussi l'histoire de la rumeur publique, des premières fake news finalement. Enfin, première non, parce que les fake news ont toujours existé.
mais en tout cas, dans la presse, comment dire, c'est vraiment, ouais. c'est montrer aussi, cette histoire, elle permet aussi de montrer le rôle de la presse dans les montées. Dans la montée des émotions.
Bah, dans la communauté émotionnelle, on reste là-dedans. Les médias sont
les premiers médiums. Et là, en fait, c'est l'une des grosses affaires, parce qu'il y en a eu d'autres. Il y a eu beaucoup d'autres affaires aussi à Bruxelles, affaires criminelles qui ont eu un retentissement très, très fort. Et là, moi, ce qui m'intéressait, c'était de montrer à quel point la presse... La presse joue un rôle hyper important dans la création, dans la construction de ces rumeurs, pour ensuite juger les rumeurs qui se propagent en ville. Et c'est quelque chose, moi, je trouve, qui est d'une violence assez inouïe, assez remarquable, en fait, où on voit la presse, moi, je voyais la presse qui n'arrêtait pas de dire « la police fait n'importe quoi, il y a ceci, c'est forcément une prostituée, c'est forcément un médecin, c'est forcément ceci, c'est forcément cela ». Et puis après, quand finalement, cette rumeur, elle se fait émeute, c'est ensuite condamner le peuple et dire que le peuple est hystérique, que le peuple est violent, que le peuple est ceci et cela. Et d'avoir que cette presse ait ce regard hyper paternaliste, ce regard sur le petit peuple, alors qu'en fait, c'est eux qui ont contribué à jouer ce rôle. Et moi, c'est quelque chose que j'ai eu envie de montrer et de dénoncer. De dénoncer à travers mon enquête et à travers ma fiction, de montrer en fait ce rôle assez ambigu qu'entretiennent les médias avec la rumeur. Et c'est quelque chose qui me tenait à cœur de montrer, de dénoncer, surtout.
C'est quasi un personnage à lui tout seul, la presse, les journaux. Enfin, les journaux, à l'époque, il n'y a que des journaux. Et donc, il y a des journalistes qui sont hyper importants aussi.
Très, très importants.
Et qui sont nommés, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on nommerait peut-être moins les journalistes, parce qu'il y en a tellement. Mais là, ils sont vraiment nommés et ils font partie prenante de l'histoire. Ils sont proches. Enfin, on a vu ça aussi, on voit ça aussi dans des affaires encore aujourd'hui. Oui. Ce que je dis un peu, n'est pas très malin. Mais parce que voilà, aujourd'hui aussi, on reste avec des journalistes qui restent fort proches des affaires et des familles. On l'a vu avec l'affaire Dutronc, on l'a vu avec l'affaire du petit Grégory aussi, où là, la presse aussi, c'est quelque chose.
Ouais.
Et c'est marrant, c'est de nouveau ce retour des choses, la presse, quoi.
Oui.
Et les journalistes.
Et là, pour le coup, il y a un journaliste qui va vraiment jouer un rôle très important, qui va être d'une sensibilité. Enfin, il faut aussi rendre hommage à certains journalistes qui font un travail remarquable, mais qui vont être pris là aussi dans les rouages de la justice. La justice va condamner la presse, le rôle de la presse dans cette montée des rumeurs. Mais certains journalistes font aussi très bien leur travail et justement essayent de... C'est ça, c'est que comme la justice ne fait pas le sien, et n'accompagnaient pas, parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est assez différent, mmh. surtout en Belgique, après l'affaire du trou, etc. Il y a eu une réforme de la police, et une réforme de la justice qui permet aujourd'hui à la Belgique, je pense, d'être un tout petit peu plus respectueux, même si je pense qu'il y a encore des manques, des familles, des victimes. Et là, en fait, ce qu'on voit, c'est que la justice ne répond pas à une demande de la famille. Ignore la famille Van Kalk dans ses demandes, etc. Et donc, du coup, c'est un journaliste qui va prendre le relais. C'est un journaliste qui va expliquer à la mère de Jeanne qu'est-ce qui se passe, quelles sont les rumeurs, qui est arrêté, etc. etc. Et forcément, ben, ça pose des problèmes.
Ouais.
Et c'est parce que la justice n'a pas fait son travail que la presse a dû prendre le relais. Voilà.
La presse comme quatrième pouvoir.
Exactement.
Voilà, et on arrive à la fin de cette émission déjà. Laura Dispourieux, donc, Qui a tué Jeanne Queux, un podcast en 10 épisodes qu'on peut écouter sur radiola.be et à d'autres endroits.
Et bientôt sur Radio Campus.
Ben voilà, évidemment.
Donc... À partir du 6 avril, je ne me souviens plus exactement. Pardon, j'aurais dû faire mon devoir.
Voilà. Le lundi après-midi, en fait, non ?
Sans doute, oui.
Sûrement. Oui. C'est la période, c'est la tranche horaire où on peut passer, où on passe d'ailleurs les créations radio qui nous proviennent du Fonds d'aide à la création radiophonique de la Fédération Hélène Bruxelles, qui est en mauvaise posture, on vous le rappelle d'ailleurs en ce moment.
Et il faut signer la pétition qui circule en ce moment sur Internet pour que le Fonds d'aide à la création radiophonique continue d'exister, continue aussi d'être bien financé, parce que sans le Fonds d'aide, je n'aurais jamais pu réaliser Qui a tué Jeanne Queux. Et c'est important de le dire.
Merci beaucoup Laura, et on ne le répétera d'ailleurs jamais assez. Donc, Qui a tué Jeanne Queux sur radiola.be et à partir du 6 avril sur Radio Campus. Merci beaucoup.
Merci.
Et à une prochaine fois.
À bientôt.
Au revoir.